Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, émission numéro 80. Cet entretien est avec Emmanuel Saint-Bon, fondateur et PDG de Roxanne Company, une agence de stratégie et de conseil pour les marques sur les réseaux sociaux et spécialisée dans le marketing d'influence. Emmanuel nous explique son point de vue sur les grands enjeux pour le business et les managers d'aujourd'hui. On y parle de Red Bull, du storytelling, la création de contenu et la recherche réelle du retour sur investissement. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur l'émission radio téléchargeable Minter Dialogue, où on parle des marques, de l'internet et les nouvelles technologies. Je suis Minter Dial, votre compère pour cette émission radio téléchargeable, autrement dit un podcast. Je suis auteur du blog MinterDial.fr, où vous trouverez les show notes pour l'entretien qui suit, avec l'ensemble des sites et des liens cités dans l'émission. Si vous lisez anglais, j'ai également mon blog en anglais, TheMindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T. Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue. Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue. Aujourd'hui, je suis à Levallois-Perret, premier show de 2013. Et j'ai devant moi quelqu'un que j'ai rencontré dans une conférence. Je l'ai entendu parler, il était brillant à ce moment-là. Donc, Emmanuel, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais ?
Bonjour, je suis Emmanuel de Saint-Bon. J'ai 44 ans et je suis le fondateur de l'agence Roxanne Company.
Alors Roxanne, ça fait quoi ?
Roxanne, ça permet aux marques d'utiliser les réseaux sociaux. Tu as assisté comme moi à l'émergence formidable de cette sphère d'influence et de cette sphère de conversation. Et ça permet aux marques de les accompagner dans leur stratégie, que ce soit pour les problématiques d'image et de plus en plus pour les problématiques d'affaires, de business.
Donc on est principalement sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas ?
On est principalement sur les réseaux sociaux, on a vocation à être un pure player, mais tu le sais comme moi, c'est une sphère qui devient très large et très puissante. Cela dit, j'observe que ça nous amène parfois à faire des choses, par exemple dans la vie réelle, car les connexions elles se font en ligne, mais elles se font aussi et de plus en plus dans la vie réelle.
Mais alors justement, quand on a une agence, on a des choix. Bon, on monte ça, et aujourd'hui évidemment c'est tendance et besoin de social media, mais face aux grands qui les grandes agences aujourd'hui se disent il faudrait qu'on s'y mette aussi, comment est-ce que tu positionnes Roxanne par rapport aux autres offres et autres agences vu que vous êtes spécialisé sur les réseaux sociaux?
Justement, c'est toute la question. Les grandes agences, elles ont la puissance, elles ont les réseaux, elles ont l'intelligence de groupe, une force d'intelligence extrêmement forte. Pour notre part, nous sommes des spécialistes, c'est-à-dire que nous ne faisons que ça. Et en l'occurrence, les réseaux sociaux, ça représente un terrain si mouvant, ça va si vite, que mon sentiment, c'est que si tu n'as pas les mains dedans tous les jours, en permanence, si tu n'observes pas les tendances, si tu ne pratiques pas les outils, tu as un train de retard. Et notre promesse, c'est de dire que les stratégies qu'on mène pour nos clients, elles sont les plus pertinentes possibles. C'est ça, c'est simplement ça le point. Aujourd'hui, chez Roxanne, vous avez tous les métiers qui font le social media, et notamment ceux dont on parlera sans doute tout à l'heure, les community managers. Ces gens-là, c'est véritablement les antennes, notre fibre, notre sensibilité aux évolutions fortes qu'on observe dans les réseaux sociaux.
Alors, juste sur Roxanne, donc explique-nous un peu ce que tu as comme service exactement.
On fait trois choses en synthèse, et je vais essayer d'être très concis. La première chose qu'on fait, c'est de permettre aux marques d'écouter. Tu sais comme moi qu'avant de prendre la parole sur les réseaux sociaux, eh bien il faut écouter, car le web aujourd'hui, il est porteur de sens pour les marques. Les gens parlent, et on sait que à peu près un tiers de ce que nous autres internautes racontons, ça a un rapport avec notre consommation. Consommation passée, consommation future. Donc c'est une histoire, je l'ai dit, d'image, et c'est une histoire d'intention d'achat. C'est là d'ailleurs où on voit la convergence entre les conversations et les actes d'achat. Donc ce que nous faisons, c'est d'abord leur permettre d'écouter, ça s'appelle la veille. On a une méthode, on a un outil et on a des équipes. Premier point.
L'outil est propre à vous ?
Non, l'outil n'est pas propre à nous. On utilise Synthesio, qui est un bon outil. Nous n'avons pas, étant nous-mêmes agence de stratégie et de conseil, nous n'avons pas vocation à créer nos outils.
D'accord, très bien. Là, ça, c'est le premier, l'écoute.
Ça, c'est le premier, l'écoute. Et parfois, ça nous permet de faire de la gestion de crise. Mais ça, c'est un sujet un petit peu particulier. La deuxième chose que nous faisons et qui est l'activité principale, c'est la stratégie social media. La stratégie, je vais essayer de le dire en une phrase, c'est de parvenir à incarner la différence profonde de la marque sur les réseaux sociaux. Et on vise deux objectifs en réalité. Un premier objectif qui est un objectif d'adhésion. Ça, c'est la construction numérique de la communauté, les fans, les followers, les likers, etc. Et puis, plus difficile, mais qui est un peu le graal dans notre métier, c'est l'engagement. L'engagement, tu le sais, c'est la capacité qu'a une marque à faire porter son propre discours par la communauté. Ça, c'est difficile à faire, mais quand on y arrive, c'est absolument merveilleux.
Avant d'aller sur le troisième, sur ce point-là, il me semble que c'est vraiment le point essentiel. Comment tu véhicules ça et comment est-ce que tu réussis à faire passer ce message vis-à-vis des marques ? C'est les marques qui le demandent ou c'est toi qui dois être plutôt évangéliste ?
Non, en général, c'est plutôt un travail de sensibilisation que nous faisons à tous les niveaux, pas seulement pour les dirigeants. Et ce que nous essayons de faire, c'est d'amener les marques à prendre conscience qu'elles peuvent être elles-mêmes des marques médias. En ce sens que quand tu vas sur les réseaux sociaux pour raconter quelque chose, tu comprends très vite qu'il s'agit de produire un contenu. Ce contenu qu'on appelle parfois une ligne éditoriale, que les Anglais appellent le storytelling, c'est cette faculté de construire un récit jour après jour avec singularité et avec cohérence, en ayant bien sûr un rapport avec l'activité de la marque, tout en apportant un bénéfice qui va séduire, qui va informer ou qui va faire rire, tout en apportant un bénéfice aux gens qui nous écoutent. Donc, on comprend que ce que nous faisons, c'est d'aider les marques à être des marques médias, à diffuser du contenu et à construire ainsi leur communauté pour faire rayonner leur discours.
Mais ça sous-entend pour moi, Emmanuel, qu'on doit aussi lâcher prise, c'est-à-dire qu'on doit laisser aux clients de porter la parole que moi, je voudrais maîtriser.
Mais c'est justement toute la magie de l'art. C'est-à-dire qu'une marque qui va sur les réseaux sociaux, et certaines sont très agiles et se payent de francs succès, elles ont fait ce travail, cette mise à niveau. C'est-à-dire qu'elles ont quitté leur position un petit peu statutaire qu'on avait dans la publicité et la communication, où on assaillait, on assommait un peu d'un certain message sans écouter et sans répondre. Là, il faut se mettre au niveau des gens et véritablement converser. Et là où tu as raison, c'est que ça produit de l'altérité. Il faut être prêt à accepter la critique, parfois virulente. Il faut être prêt à accepter les différences de point de vue. Et ça veut dire, effectivement, une forme de lâcher prise. Mais quand on le pratique, on se rend compte que, d'une part, on offre une image de maturité, et d'autre part, acceptant ainsi la critique, parfois sur des espaces que la marque elle-même a créés, eh bien, on fait preuve d'authenticité. J'ai vu l'an dernier une étude américaine, je me souviens plus du nom, qui disait que quand une marque a que des louanges, que des choses parfaites sur un forum, par exemple, les gens ne le croient plus. Donc, quelque part, la critique, quand elle est raisonnée, et quand la marque y répond, c'est gage de force et d'authenticité. C'est intéressant.
Absolument. Ben, c'est la preuve qu'on n'est pas si bête que ça, finalement. Mais parce que par rapport au marketing, qui par le passé, c'est fabriquer cette image d'idéalisme, de perfection, et qui finalement n'est plus crédible quand on est face aux consommateurs. Alors, juste revenant sur Roxane, tu as un troisième pôle.
Oui, le troisième pôle, et c'est là où peut-être on va rejoindre un peu les pratiques qu'on avait dans le grand média préalablement, c'est qu'il y a, selon nous, une vraie bataille dans le réseau social. Cette bataille, c'est de parvenir à convaincre, et c'est pas encore tout à fait, que le social media, c'est pas juste un levier comme beaucoup de marques le considèrent aujourd'hui. Le social media a vocation à devenir une discipline, comme la publicité, comme le CRM, comme le marketing service. Et pour ça, nous autres acteurs du social media, il faut qu'on fasse quelque chose qui est difficile, c'est de parler de ROI. C'est de parler de retour sur investissement. Et aujourd'hui, je vois trop peu d'acteurs qui le font. Qu'est-ce que nous faisons, nous, chez Roxane? Une fois qu'on a défini la stratégie, qu'on a un concept, qu'on a une histoire, qu'on a le community management, eh bien, nous proposons aux clients de mettre sur pied un plan d'activation. Il faut le voir exactement comme un plan média. Ça dure sur l'année. Et en coiffant ça du concept qu'on a créé, on va construire un certain nombre de temps forts dans l'année qui vont se situer au carrefour d'une cible et d'un objectif, qui sont contrôlés par des indicateurs clés de performance. Et dans chaque temps fort, on va mixer allègrement le owned media, le earned media et le paid media. Alors, je ne sais pas si tes auditeurs sont un peu explicités, je ne sais pas. Mais c'est-à-dire qu'on va mettre un certain nombre de ressources qui peuvent être, par exemple, une vidéo ou un événement dans la vie réelle ou pourquoi pas de l'achat d'espace sur LinkedIn ou encore une application sur l'iPhone pour justement contribuer à l'atteinte des objectifs de la marque.
Donne-nous un exemple de KPIs que tu aurais mis en place afin d'avoir un ROI sur un temps limité. Comment est-ce que tu peux nous donner un exemple, en tout cas sans dévoiler les secrets d'État?
Oui, bien sûr, mais c'est une question très intéressante parce que la raison pour laquelle les acteurs du social media ne vont pas beaucoup dans le ROI, c'est que c'est compliqué. C'est compliqué pour deux raisons. La première, c'est qu'on est, je l'ai dit, sur un environnement très mouvant. Or, mesurer, ça veut dire être stable dans le temps et pouvoir comparer ce que nous avons fait à ce qu'on faisait, par exemple, il y a un semestre ou l'an dernier. Nous avons pris le parti d'avoir très peu de KPIs, 8 KPIs, pas plus que ça, qui sont répartis en 3 catégories, la dynamique pure, la performance, l'affinité. On retrouve la même logique qu'en media planning, de la simplicité, de la durabilité, de la lisibilité. Et des KPIs, on peut en avoir des milliards sur le social media. C'est un média digital, donc ça produit du chiffre à l'appel. Mais en réalité, il faut quelque chose, non seulement qui soit lisible pour l'annonceur, mais également dans lequel il retrouve ses habitudes qu'il a en télévision, en affichage ou en radio. Et c'est ça tout le principe de la plateforme qu'on a créée, qui s'appelle Rox Analytics. C'est assez solide, ça produit du temps réel. Et j'ajoute, c'est intéressant, que ça produit des données non seulement pour le client pour lequel on travaille, mais également ça inscrit ces données en comparaison des concurrents du client. C'est-à-dire que si, par exemple, on travaille pour un constructeur automobile, on va pouvoir situer sa performance par rapport aux performances des autres constructeurs automobiles sur le social media. Et ça, c'est très intéressant.
Je vais supposer que ces mesures vont être liées aux objectifs de ce concurrent qui ne sont pas forcément des données ou des analyses aussi pertinente pour l'autre qui aurait peut-être d'autres soucis, d'autres objectifs.
Oui, absolument. Il faut bien sûr toujours adapter et donner une grille de lecture humaine à ces objectifs, car tu l'as dit, les objectifs peuvent être très divers et ne s'inscrivent pas toujours d'ailleurs dans une logique de cash et de business. On peut avoir des logiques de recrutement, on peut avoir des logiques de participation, on peut avoir des logiques de remontée de questionnaires, on peut avoir des logiques de trafic dans le magasin. Donc il y a évidemment toutes sortes d'objectifs et on adapte nos analyses à ces objectifs-là.
Tu as parlé de discipline. Et pour repousser un peu Emmanuel, je pense plutôt que les médias sociaux sont, pour moi en tout cas, c'est plutôt un état d'esprit qu'une discipline en tant que telle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est une discipline, on va dire, partagée par tout le monde, je l'estime plutôt comme un état d'esprit. Comment tu réagis ?
C'est un état d'esprit si on situe du point de vue du consommateur. Cet état d'esprit, tu en as évoqué une petite partie, c'est le lâcher prise, c'est tous les processus de curation, c'est-à-dire de reprise de contenu, c'est ce terme qui vient de l'anglais qui est la serendipity en anglais, et qui consiste à découvrir soit des personnes, soit des informations sans les avoir spécifiquement cherchées. Tout ça, ça fait partie de l'état d'esprit. Mais quand on se situe du point de vue des marques et du point de vue professionnel, alors oui, je crois que ça va et que ça doit devenir une discipline avec ses codes, avec ses stars, avec ses campagnes mythiques, avec ses approches, avec ses bonnes idées, comme il en existe depuis très longtemps dans la publicité.
Alors, pour repousser dans un autre sens, faire l'homme qui saute de l'avion un peu haut dans et stratosphère et en faire des bases, bravo, mais reproduire est difficile. Parfois, dans les médias sociaux, ce qu'on a fait hier ne marche plus demain. Alors, est-ce que c'est possible de construire une discipline avec autant de variations ?
C'est une question intéressante. D'abord, pour reprendre ce que tu dis sur Red Bull est très particulier. Ils consacrent un tiers de leur chiffre d'affaires, je dis bien un tiers, à leurs dépenses de communication. Et sur l'affaire Baumgartner, on estime qu'ils ont gagné 3 fois ce qu'ils ont investi et que ça leur a porté en équivalent média entre 40 et 50 millions de dollars. Donc ça, chapeau bas, invention presque d'une nouvelle discipline. Maintenant, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui restent. Oui, tu as raison de dire que, par exemple, Facebook pourrait un jour souffrir d'un certain déclin ou en tout cas d'une certaine désaffection des annonceurs. Facebook, par exemple, a décidé que le reach un jour passait à 16%. On ne touche plus que 16%. Pourquoi demain ne déciderait-il pas que le reach tombe à 3% et que pour toucher les 97 autres pourcents, subitement, il faudrait payer? Ce n'est que, je crois, en 2007 ou en 2006 que Facebook est devenu le premier réseau social en dépassant MySpace. Le destin de Facebook pourrait un jour se trouver dépassé par un autre acteur et peut-être, pourquoi pas, Twitter. Mais maintenant, il y a des choses qui restent. Je crois que ce qui est inscrit durablement dans le paysage, c'est cette habitude que nous avons prise d'échanger, de converser, de discuter parfois avec beaucoup de confiance avec des inconnus. Et ça, c'est facteur d'influence et c'est facteur de décision sur nos achats. Ça, je crois qu'on ne pourra plus revenir en arrière et que les marques doivent non seulement en tenir compte, parce que c'est des points de vigilance, mais aussi saisir les opportunités que ça représente.
Alors, tu as parlé de la stratégie et autant on est dans la stratégie, on va dire, du grand niveau. À combien est-ce que la formation est importante de ce que fait comme prestation Roxane?
C'est amusant que tu me poses la question parce qu'actuellement, je reçois des candidats pour recruter un poste. Et l'une des choses que je leur explique, c'est que la valeur d'une société comme Roxane, c'est ni plus ni moins que les gens qui y travaillent. C'est un travail d'équipe, c'est pas des plateformes, des logiciels, des camions, des entrepôts, c'est les gens qui y travaillent. À partir du moment où on comprend que c'est un métier d'homme, alors on met tout le paquet sur la formation. Et chez nous, en l'occurrence, si tu me permets cette petite minute de publicité, parce que c'est une chose à laquelle je suis très attaché, nous faisons, pour chaque personne qui sont chez Roxane, une formation externe par année et énormément de formations internes. Hier encore, formation sur l'organisation. La semaine dernière, formation sur la prise de parole en public. Le mois dernier, formation sur le responsive design. Et on sensibilise des gens dont c'est pas forcément le métier pour véhiculer cette culture-là. Donc, on voit bien qu'on est sur des métiers mouvants, on voit bien qu'on est sur des métiers techniques. Et justement, la valeur qu'on produit, on aime à dire qu'elle se situe au carrefour de la production, du community management, de la techno et des idées. Et c'est là où on est sur un terrain de jeu qui est formidable. Te dire ce que sera notre métier demain, mais j'en sais rien, Minter. J'en sais rien. J'observe, par exemple, un truc très intéressant qui vient des États-Unis. Il y a certaines agences, c'est même plus de la communication qu'elles font. Elles font, elles disent la numérisation de la consommation. Je donne un exemple, si tu me permets. C'est un peu long, mais tu verras, c'est intéressant. J'entends parler d'une marque de sparadrap qui a eu l'idée géniale d'acheter une licence Muppet Show. Alors, il y a une petite grenouille Kermit sur le sparadrap. Et quand le gamin, il se coupe la main, qu'il pleure, il vient voir sa maman, la maman met le sparadrap avec la grenouille Kermit sur la main du gamin. Et quand tu approches l'iPad ou l'iPod de Kermit, subitement, la grenouille s'anime en réalité augmentée. Et le gamin rigole et il oublie qu'il a mal. Ça, c'est ce que j'appelle la numérisation de la consommation. C'est génialissime. On travaille beaucoup pour notre part dans l'hôtellerie. Quand est-ce qu'on va pouvoir ouvrir les portes avec l'iPhone? Quand est-ce qu'on va pouvoir offrir un bar, offrir un verre à distance pour quelqu'un qui est dans un bar? Quand est-ce qu'on va pouvoir commander à distance un film? Quand est-ce qu'on pourra entrer en contact facilement avec les autres personnes qui sont dans l'hôtel? T'imagines le champ immense de choses formidables à créer, vraiment.
You've got questions, we've got answers. Business leadership, ownership and sales can be challenging. Tune into the Accelerate Your Business Growth podcast to learn from the world's experts. Join me, your host, Diane Helbig, as I chat with people who have expertise in various areas of business. You'll enjoy the lively conversations that are focused on providing you with the ideas, tips, and suggestions you need to realize greater success. Get what you need for your business, when you need it, from the people who have the answers. Accelerate Your Business Growth is part of the Evergreen Podcast Network and is available on Apple, Spotify, or wherever you listen to your favorite podcasts.
Quand on regarde ce qui sort du CES actuellement, c'est moins, on va dire, des nouvelles technologies, mais c'est les applications, l'applicabilité par-dessus l'iPhone ou donc les apps. Donc on est en train, on est, pour moi, le grand boom et le changement de motivation de ce qui se passe, c'est comment on perçoit cette technologie plus positivement et comment elle peut nous aider dans notre vie au quotidien.
Mais justement, je suis pleinement d'accord avec toi. Moi, ce que je dis à mon équipe, c'est qu'ils doivent impérativement avoir une culture technique. Ce que je crois fondamentalement, c'est que la technologie et la production va émerger et peut-être remplacer la création. Je te donne un exemple. Tu prends le marketing relationnel, le CRM. Le CRM, c'est basé sur une relation binaire. Tu consommes et je te donne des points que tu peux rédempter ou que tu peux utiliser par la suite. Aujourd'hui, on regarde ce que fait le mobile. Le mobile, ça veut dire quoi? Le mobile, ça veut dire temps réel et ça veut dire géolocalisation. On a réussi chez Roxane à convaincre Accor, on a construit avec Accor, non pas une relation binaire, mais une relation triangulaire. J'explique, on a créé une relation où la géolocalisation prend une valeur dans la relation de consommation. Comment ça marche? Je vais très très court, mais grâce à une application qu'on a créée pour eux, qui s'appelle Places, le visiteur qui est dans un hôtel peut se géolocaliser. Et cette géolocalisation, il va clamer ça sur son Facebook, par exemple, et ainsi exposer ses amis au fait qu'il est au Sofitel de Rabat, par exemple, eh bien, cette géolocalisation est reconnue par Accor et produit une valeur dans le programme de feed d'Accor. Et ça, c'est extraordinaire. C'est une nouvelle frontière.
Je suis dans la salle de sport à Sofitel, à Sydney, comme j'étais il y a quelques temps. Je check-in sur Places. Exactement. Qu'est-ce qui se passe?
Il se passe que naturellement, si tu es membre du club, cette géolocalisation est identifiée, reconnue et te donne des points additionnels dans le programme de feed d'Accor.
Ça, c'est cool. J'adore ça. Alors, je voulais juste aller sur un autre terrain qui est parce que tu travailles particulièrement sur la e-reputation, la réputation sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que tu gères la réputation, quel est ton point de vue sur la réputation des dirigeants? Donc, c'est-à-dire que j'ai une marque, Accor ou autre, et quelle est la place que doivent y figurer les patrons et dirigeants du groupe?
Alors, c'est un peu moins notre créneau, mais néanmoins, je peux peut-être te livrer mon sentiment. Je crois observer que la prise de conscience des dirigeants sur ces phénomènes est encore insuffisante. Insuffisante parce qu'ils sont exposés, à plus forte raison s'il y a peu de traces sur eux sur Internet, en quelque sorte, ça constitue une fragilité, mais aussi parce que il pourrait y avoir plus d'opportunités qui soient saisies. Le dirigeant, le nom du dirigeant, c'est aussi une marque elle-même, même si elle est passagère, car on n'est jamais dirigeant à vie ou rarement, c'est une marque qui peut intéresser les gens en ce sens que les consommateurs aujourd'hui ne veulent plus discuter avec des marques, ils veulent discuter avec des gens. Et il y a certains dirigeants américains, notamment, qui se sont rendus beaucoup plus accessibles par les réseaux sociaux, notamment, je pense à Quora, que tu connais peut-être, ce réseau, où tu pouvais, il y a encore un an, je crois, interpeller Mark Zuckerberg lui-même. Mais je pense à ce que j'ai vu au web, par exemple, il y a un mois. Tu as peut-être vu comment il s'appelle ce Mexicain qui travaille pour Domino's, qui est une star, Ramon. Alors, Ramon, c'est devenu une star, mais je pense à Scott Monty chez Ford, qui était le grand prêtre des réseaux sociaux et qui l'est toujours, et qui sont eux-mêmes des dirigeants et qui sont très accessibles par les réseaux sociaux. Ça, c'est intéressant. Je pense que les dirigeants français devraient travailler cette accessibilité par les réseaux sociaux.
Et puis, par conséquent, montrer l'exemple à comment et pourquoi un gars, une femme qui est employée pourrait aussi avoir sa personnalité, sa présence en ligne, que ce n'est pas une perte de contrôle, ce n'est pas un risque de perdre l'employé. Au contraire, c'est un moyen de valoriser l'employé qui, plus est, valorise sa relation personnelle avec un client.
Oui, mais tu as raison. Mais c'est très compliqué à mettre en œuvre quand tu réfléchis. Quand tu t'appelles BMW, par exemple, tu as des milliers de salariés et tu te dis que cette armée, pardon pour le terme, en tout cas cette force peut être employée pour véhiculer un certain message. En réalité, c'est compliqué.
Véhiculer, vraiment, tu étais plein dans les mots.
Bien joué, Minter. En réalité, c'est assez compliqué parce que ça suppose de sensibiliser les gens, de les former, d'identifier ceux qui, dans ton groupe, sont disposés à le faire et leur dire... Voici ce que vous pouvez faire, voici ce que vous ne pouvez pas faire, voici ce que vous devez faire, voici ce que vous ne devez pas faire. Exemple, je suis un particulier, je travaille chez BMW, je vois ma marque critiquée sur un forum.
Devrais-je pas...
Dois-je répondre ? Si je réponds, dois-je dire que je travaille pour BMW ? Dois-je en informer ma hiérarchie ? Autre exemple, je vois un de mes collègues salariés critiquer la marque pour laquelle il travaille. Que dois-je faire ? Waouh.
Bon, pompier. Bon, enfin, ceci dit, si on regarde des sociétés qui en sont pas toutes petites, mais IBM pour prendre un, Coca-Cola pour prendre un autre, ils sont arrivés à le faire puisque pour moi, ils ont eu l'état d'esprit premier et ensuite ils ont en effet processisé l'ensemble des choses, donné des cadres. Et enfin, pour moi, je pense que le premier pas, c'est d'avoir le patron qui montre l'exemple, mais ensuite, un choix ou non en termes de ressources d'investissement, c'est de faire le roll-out pour que l'ensemble des autres personnes dans le groupe, toi, tu es titré oui, non, avec formation accompagnée pour pouvoir le faire dans le bon sens. Parce que l'opposé, c'est quoi ? Ben, rien dire.
Oui, ne rien dire, mais c'est encore l'état d'esprit dominant. Moi, je crois observer forcément les dirigeants aujourd'hui, ce sont des gens qui ont 45, 50, 55 et parfois plus. Le regard qu'ils jettent sur les réseaux sociaux, c'est plutôt un regard de circonspection. Et c'est bien normal, car ils n'ont pas été éduqués et élevés avec ça. Mais je me souviens de la crise qu'avait traversée Domino's Pizza en 2009, par exemple, où on avait deux employés indélicats qui s'étaient mal conduits, qui s'étaient filmés, qui avaient diffusé ça sur Internet. En moins de 3 jours, le PDG, dont le nom m'échappe, Patrick McDoyle, je crois, a produit une vidéo à l'américaine extraordinaire. En 3 minutes, tout était dit. C'est-à-dire qu'il a passé les 30 ou les 40 premières secondes à faire son mea culpa, à battre sa coulpe et à expliquer les choses. Et les 2 minutes 30 restantes, à expliquer à quel point la confiance était importante, à expliquer à quel point les équipes étaient engagées, à expliquer à quel point la qualité était le plus important de tout. Mais c'est merveilleux. Il a compris avec agilité que quand on a subitement les projecteurs braqués sur soi, mais c'est une extraordinaire source, un porte-voix extraordinaire. Et il a réagi avec agilité et rapidité grâce à ses équipes. Et ça, c'est super, on le voit trop peu en France.
Tout comme la plainte est une belle opportunité.
Naturellement, la plainte, c'est d'abord une marque d'intérêt. C'est comme en vente, c'est comme sur les réseaux sociaux. Le pire, c'est le silence. Martin Luther King disait, ce n'est pas la méchanceté des mauvais qui m'effraie, c'est l'indifférence des bons. Le pire que tout, c'est le silence. La plainte, c'est comme une objection, c'est une marque d'intérêt. Et c'est le début d'une relation qui doit se transformer, qui doit parvenir à transformer un détracteur en ambassadeur. Car quand on a bien traité quelqu'un qui avait un problème, il devient un apôtre. Il faut penser à saint Paul.
Je veux revenir sur le premier point, on en a discuté. Car quand on veut faire une stratégie social media, pour moi, et étant homme de marque à prime abord, le concept, c'est on va s'exprimer sur quoi et sur qui. combien est-ce que tu arrives dans tes conversations et dans tes, enfin, dans ton travail à remonter, je dirais, la rivière pour être à la source de ce dont on va parler, pour être plus dans l'adéquation quand on va s'exprimer sur les réseaux sociaux. Tu comprends?
Non.
C'est-à-dire que quand on va s'exprimer sur les réseaux sociaux, il faut bien avoir une stratégie, ce qu'on va dire, donc la ligne éditoriale. Combien même cette ligne éditoriale doit être en adéquation avec qui on est, initialement, nos valeurs, la racine de notre marque. Donc combien est-ce que tu rentres dans cette conversation-là, I call an English go upstream, où tu remontes la rivière, pour moi, à la source, donc la marque.
Mais tu viens de décrire exactement la façon dont on procède. Tout à l'heure, j'ai dit que la marque devenait une marque média, productrice de contenu, et j'ai parlé de ligne éditoriale. Il y a un credo qu'on a chez Roxane, et on n'est évidemment pas les seuls à avoir cette idée, c'est que rien ne se fait sans une idée forte, sans un concept puissant. Et fondamentalement, ce que nous sommes ici, Minter, chez Roxane, c'est une agence de stratégie et de publicité. Là où ça diffère, c'est sur les 100 derniers mètres. On ne va pas acheter des 4x3 et on va faire des choses sur Facebook, Twitter, YouTube et LinkedIn. Mais au début, c'est une démarche de direction artistique et de planning stratégique avec du benchmark concurrentiel pour produire un concept. Et pour produire ce concept, il est nécessaire que nous plongions nos mains dans la plateforme de la marque et que nous comprenions quel est son historique, quelle est sa USP, quelle est ses missions, quelle est sa vision, quel est son territoire, quelles sont ses valeurs, quelle est sa personnalité. C'est un travail de marketing et d'analyse.
Et je te comprends et je me dis comment est-ce qu'on valorise cela aujourd'hui? Continue pour beaucoup de marques. Les réseaux sociaux sont encore un élément minime du budget parce qu'aujourd'hui, je milite pour ça pareil et je me dis qu'il faut bien comprendre qu'une fois, même si la dépense investissement média dans les réseaux sociaux va être une partie petite encore de l'ensemble, que ça doit nous permettre d'aller vraiment vers la source, à la marque, à l'origine et être un message qui va être transporté par tous les médias, pas que les médias sociaux. Donc je trouve que c'est vraiment là où il faut être, mais c'est compliqué aujourd'hui, mon sentiment, de valoriser ça auprès des dirigeants.
Mais c'est très compliqué, d'une part pour la question de culture qu'on a évoquée tout à l'heure, mais c'est compliqué parce qu'il faut bien comprendre que la façon dont les marques travaillent aujourd'hui, peu ou prou, même malgré l'arrivée d'Internet, c'est des façons qui existent depuis 30, 40 ou 50 ans. Tu as travaillé chez L'Oréal. La question clé pour un marketeur chez L'Oréal, c'est quelle est ta part de voix? Voilà, il y a une corrélation forte entre tes parts de marché Nielsen dans ton magasin et la part de voix que tu as, entre guillemets, en télévision. C'est très fortement ancré à tous les étages et il est, même si on peut le déplorer, il est normal qu'il y ait un écart extrêmement fort entre le potentiel, les audiences, la masse de gens qui passent par les réseaux sociaux et la part de budget que consacrent les annonceurs à ça. On explique, on sensibilise, mais nous restons des acteurs récents et nous restons sur une discipline qui a aussi ses carences. C'est pas du tout la panacée. Et je vais même plus loin que ça. Ça n'a pas vocation à tout flanquer par terre. On n'est pas des révolutionnaires. On est plutôt à essayer de s'inscrire dans ce train qui démarre, qui a pris de la vitesse, qui va en prendre davantage. Mais on ne peut pas prétendre tout changer en 5 ou même 10 ans.
Alors, 2013 vient de démarrer, une question comme ça, juste un peu rigolo, sur l'ensemble des réseaux sociaux, qui va gagner?
Waouh. Sur l'ensemble des réseaux sociaux, moi j'ai envie d'exprimer une préférence personnelle, c'est qui va à Twitter, qui est depuis longtemps le réseau social que je préfère, et je suis en train de voir depuis un an le modèle de Twitter s'inscrire dans le succès, hein, avec sa régie. J'ai évoqué tout à l'heure, mais je suis très prudent dans mon propos, le déclin tout relatif de Facebook, et j'observe avec gourmandise l'explosion de LinkedIn, les réseaux sociaux professionnels. Je vois que Viadeo se développe énormément beaucoup, notamment dans les pays où n'est pas présent LinkedIn, en Chine notamment. Pour ma part, je crois beaucoup au développement des réseaux sociaux professionnels. Et puis bien sûr, les réseaux sociaux qui sont basés sur l'image. Je pense à Pinterest, je pense à Instagram. Pourquoi? Parce qu'on est, notamment pour la jeune génération, on est de moins en moins dans une génération liée au texte et de plus en plus dans une génération liée aux images. Donc ça, je crois effectivement que c'est facteur de succès pour l'avenir.
Alors Google Plus ou moins?
Google Plus, je suis circonspect sur Google Plus. J'ai à ce stade, mais les choses peuvent changer, l'impression que c'est un peu un feu de paille, beaucoup d'inscrits, très peu d'utilisation. Je crois me souvenir que l'utilisation moyenne d'un membre de Google Plus est 3 minutes par mois, donc c'est très très peu, notamment au regard de, je crois c'est 30 minutes ou une heure,
27 minutes.
27 minutes par jour pour...
Sur Facebook.
Sur Facebook, exactement. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue Google+, parce que Google+, ça reste le moteur numéro un de recherche dans le monde, en France en particulier, je crois 94% de part de marché. Et on dit qu'il y a un lien fort entre l'utilisation de Google+, et le référencement naturel. Quand on est un e-commerçant, peut-on se passer de Google+? La question est posée.
Bon, Emmanuel Saint-Bran, comment est-ce que les gens peuvent te suivre, connecter avec toi, voir un peu plus sur Roxane?
La meilleure façon et la plus simple, c'est de me retrouver sur Twitter, @Saint-Bon, en un mot, S-A-I-N-T-B-O-N. Et puis sinon, vous tapez Roxane Company sur le web et vous allez très vite nous trouver, Company à l'anglaise, bien sûr.
Je mettrai tout ça dans les show notes. Je te remercie beaucoup de ton temps, Emmanuel. Plaisir de te voir encore et merci d'être sur le show.
Merci, Minter. À très bientôt.
Alors, merci de nous avoir rejoints pour cette émission de Minter Dialogue en français. Vous trouverez les show notes sur minterdial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes, où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dont des personnages comme Cédric Giorgi de TechCrunch, Vincent Ducré, conseiller Internet au gouvernement, Jacques Lorme de Leroy Merlin, ou encore Anne-Sophie Baudry, désormais chez Facebook. Sinon, vous pouvez me retrouver sur mon site anglophone, themindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T, où la marque se rend personnelle, où j'écris sur les enjeux des marques et le marketing digital. Vous pouvez également souscrire à mon newsletter anglophone sur The Mindset, ou bien me suivre sur Twitter, @MDIAL. Faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation, où que vous soyez.
Hello, this is Gary Chachot welcoming you to check out the French History Podcast. Our main show covers the history of France from the first humans until present. If you liked Mike Duncan's The History of Rome and wanted a similar program covering the land of beauty, culture, and love, we are exactly that. We also host world-renowned scholars who have delivered guest episodes on their specialties, including 18th century pirates, revolutionary booksellers in 20th century Paris, the special friendship between the Marquis de Lafayette and Thomas Jefferson, and numerous others. Learn what you love and listen to the French History Podcast today.